France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Mohamed V, le sultan devenu roi du Maroc, quel destin que celui de Sidi Mohamed Ben Youssef, le dernier sultan et le premier roi du Maroc. Mais comment s'est opérée cette incroyable métamorphose? Le Maroc était un protectorat, il a fallu composer avec les autorités françaises, avec les tenants de la tradition et avec les nationalistes. Et c'est ainsi que le sultan devint roi.
Tel est le message que vient de nous confier Sidi Mohamed Ben Youssef, leader d'une indépendance et sultan du Maroc.
Nous considérons cette journée comme une date décisive dans l'histoire de notre pays. Nous souhaitons que notre chère patrie aille toujours de l'avant, jouissant de son indépendance, dans le cadre d'une interdépendance avec la France, nation amie de notre pays.
Ici Rabat RTF, à vous Paris.
À nous Paris. Bonjour Benjamin Badier.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire, spécialiste du Maghreb contemporain. Vous êtes l'auteur aux éditions Perrin de Mohamed V, dernier sultan et premier roi du Maroc. Quelle place occupe Mohamed V aujourd'hui dans cette histoire du Maroc? C'est une figure incontournable?
C'est la figure tutélaire. C'est le père de l'indépendance du Maroc, voire le père de la nation. C'est pas un titre officiel qu'il a, mais c'est un titre officieux que l'on peut retrouver dans les manuels scolaires et qui est un jalon essentiel de ce que j'appelle le roman royal marocain. C'est comme le roman national français, mais sauf qu'ici, au lieu d'avoir la nation au centre, on a la monarchie au centre.
Et donc, et puis c'est le père d'Hassan II.
C'est le père de Hassan II, c'est le grand-père du roi actuel Mohamed VI.
Avec ce personnage, et grâce à vous Benjamin Badier, nous allons essayer de saisir cette histoire du Maroc au XXe siècle, parce que à lui seul, il résume une partie du XXe siècle, bien sûr. À quel moment devient-il, alors je l'entends bien, sultan, hein, parce que c'est le dernier sultan et le premier roi?
Il devient sultan le 18 novembre 1927, un jour après la mort de son père, mais il ne devient pas automatiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de succession automatique au trône, comme ce qui arrive aujourd'hui au Maroc, donc il y a une transformation au cours de son règne. Il est choisi comme sultan par un ensemble d'hommes politiques, qui sont des hommes politiques à la fois marocains et des représentants de l'autorité coloniale française, donc la résidence générale. Il y a une intrigue qui commence avant la mort de son père Moulay Youssef, de maladie le 17 novembre 1927, et il est choisi parmi ses quatre frères, il est le troisième dans l'ordre de naissance. Il est choisi à la fois parce qu'il est considéré comme celui qui est le plus sage aux yeux des Français, celui qui est peut-être le plus manipulable, même si l'histoire a montré que ça n'a pas été le cas, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, parce qu'il est celui qui permettait d'écarter de l'entourage du trône un chambellan, le chambellan Ababou, qui était très influent auprès de son père et qui constituait une des dernières résistances autour du palais contre la colonisation et contre l'administration du protectorat.
Oui, parce que son père, Moulay Youssef, est bien le sultan, mais j'entends dans ce que vous dites que ce n'est pas une évidence. Hein. Nous sommes formatés avec la primogéniture masculine, on dit que c'est toujours le garçon et l'aîné qui devient souverain, mais ça, ce n'est pas le cas au Maroc. Alors, aujourd'hui, ça a peut-être changé.
Aujourd'hui, c'est le cas.
Voilà, aujourd'hui c'est le cas. Mais en 1927, au moment où Moulay Youssef décède, donc il est choisi. Il est choisi, mais à vous entendre, il n'est pas choisi par son père avant de mourir. Il est choisi par d'autres personnes. Ça veut dire que la société marocaine, ou en tout cas le sultan, doit consulter des gens pour avoir son pouvoir affermi.
Exactement. Alors son père, Moulay Youssef, voulait que ce soit le fils aîné, Idriss, qui soit sur le trône après lui, mais il est rapidement écarté par cette intrigue que je viens d'évoquer, même si une contre-intrigue voulait quand même le placer sur le trône. Tout cela, ça montre bien la nature du sultanat à l'époque. C'est un système politique qui remonte à loin et qui perdure pendant les premières années de la colonisation, au moins jusqu'à la moitié du règne de Mohamed Ben Youssef, de Mohamed V. Le sultan est choisi par un ensemble de personnalités que la tradition politique sunnite nomme ceux qui lient et délient, sous-entendu le pouvoir. Donc ils sont capables de lier le pouvoir en accordant leur allégeance et la légitimité à un individu qui est, dans le même temps, et c'est ça qui est un peu compliqué, considéré comme choisi également par Dieu, c'est la fameuse baraka. Donc il est choisi par Dieu et en même temps il est choisi par un certain nombre d'acteurs politiques, parmi lesquels on peut trouver des oulémas, c'est-à-dire des savants musulmans, notamment ceux de la ville de Fès. Mais on trouve également des pachas, des gouverneurs de ville ou parfois des caïds, et puis d'autres membres de la dynastie et des notables qui se trouvent dans la ville où le précédent sultan est décédé. Donc on a un sultan qui est choisi et cette élection, car c'est quasiment une élection, même si en fait il y a toujours des rapports de force derrière, qui sont politiques, qui sont parfois militaires, n'est que la première étape d'un cycle de renouvellement du pouvoir qui peut durer pendant plusieurs mois ou pendant tout le règne du sultan, qui doit sans cesse demander ensuite l'allégeance non seulement de la ville qui l'a élu, mais ensuite des tribus, des autres pachas, des autres oulémas. Donc on a ce qu'on appelle des serments d'allégeance qui sont prêtés à ce moment-là au sultan du Maroc. On appelle ça une baya. C'est à la fois le document et c'est le serment d'allégeance.
Mais ce serment d'allégeance, il ne vaut pas que au moment, en l'occurrence ici 1927, où il devient sultan. C'est quelque chose qu'il faut confirmer sans cesse à travers son règne.
Exactement, c'est quelque chose qui doit être confirmé même plusieurs fois par an. Il y a des cérémonies qui ont lieu au moment des grandes fêtes religieuses, les deux Aïdes, le Mouloud. C'est une cérémonie qu'on appelle l'Adiya, c'est-à-dire le don, le présent. C'est un moment où les représentants des tribus et les pachas viennent voir le sultan et lui rendent hommage lors d'une grande cérémonie dans laquelle le sultan est à cheval sous son parasol qui fait partie de ses régalias. Et donc on a une réitération de cette allégeance qui prouve que celle-ci en fait peut être solide mais surtout pourrait ne pas être. En fait c'est ça qui est important, c'est une allégeance conditionnée. Souvent c'est conditionné à l'échange de la reconnaissance d'un pouvoir ou alors une fonction particulière, des privilèges particuliers. Et donc ça c'est le système ancien et il perdure, il est préservé par les Français, notamment par le général puis maréchal Lyautey pendant toute la période du protectorat.
Oui, parce qu'il faut que ça se passe bien avec les autorités françaises aussi. Est-ce que l'autorité française a une possibilité de veto, je le dis simplement, mais est-ce que c'était imaginable de dire non, celui-là, on n'en veut pas?
Ah oui, oui, très clairement. Les Français arrivent à récupérer le système de choix du sultan. Ils le font très bien en 1912 lorsqu'ils déposent le sultan Moulay Abdel Hafid, qui est le signataire du traité de protectorat, mais qui est trop rétif et qui est déposé, poussé à l'abdication plus exactement, par le général Lyautey. C'est Lyautey lui-même qui avait choisi Moulay Youssef. Et en 1927, on a une alliance entre des membres du Marzen, le gouvernement marocain, notamment le grand vizir Mokri, et des membres de la résidence générale, un des successeurs de Lyautey, le résident général Steg. Et donc oui, ils interviennent, mais ils interviennent dans le cadre d'un système qui leur précède.
Okay. Avec, en novembre 1927, la mort de Moulay Youssef, et c'est à ce moment-là que Sidi Mohamed Ben Youssef devient sultan. Mais on l'entend, c'est pas automatique, ce n'est pas avec un claquement de doigts. Et un mois plus tard, le nouveau pacha écrit au pacha, le nouveau sultan écrit au pacha et au khalid des villes et des ports.
Tous les hommes de religion, de piété et de science que renferment Fès et sa région, vizirs, chourfas, oulémas, notables, assistés des délégations des villes et des ports, se réunirent pour fixer leur choix sur celui qui serait appelé à succéder à l'auguste prince et à porter le fait du califat. Ce choix s'est porté sur notre personne chérifienne, et l'acte d'investiture a été établi et signé par toutes les personnes présentes, avec un empressement et une joie unanimes. Nous nous trouvons ainsi, par la grâce de Dieu, revêtus du précieux fardeau du sultanat et fermement décidés à suivre avec foi et dévouement les traces de nos saints ancêtres. Que Dieu nous donne son appui et son assistance, qu'il bénisse le gouvernement de celui qui met en lui aujourd'hui et pour toujours sa confiance.
En 1927, le nouveau sultan annonce au pacha et au caïd que c'est lui, il a été élu. C'est intéressant d'ailleurs d'imaginer que c'est lui-même qui écrit pour annoncer son élection.
Alors, c'est pas lui qui écrit, hein,
oui,
c'est
son administration mais...
qui le diffuse. Et ce qui est intéressant dans ce document, c'est que il montre bien l'unanimité qu'il y a eu autour de son choix, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a eu des divisions, il y a eu des débats. Et on a surtout l'idée d'un pouvoir sultanien qui se donne une image de modestie. Il reçoit humblement ce qu'il appelle littéralement le fardeau du sultanat. Il reçoit un pouvoir dont potentiellement il n'aurait pas voulu.
Alors qu'il le veut. Mais on connaît bien comment ça fonctionne dans ces moments-là. Avec ici, on l'a entendu dans cette lettre qui a été lue par Olivier Martineau, l'évocation du shérifat, c'est comme ça qu'on dit ?
Alors, des shorfas, en l'occurrence, hein, c'est les shérifiens, ce sont les descendants du prophète. Lui-même, en tant que membre de la dynastie alaouite, descendant du prophète par son gendre Ali, il est shorfa, c'est-à-dire descendant du prophète. Il n'y a pas que lui, en fait, il n'y a pas que les alaouites, il y a d'autres dynasties au Maroc qui peuvent parfois avoir leur mot à dire dans le choix du sultan.
Une fois qu'il est sultan, ça se passe bien pour lui ? C'est-à-dire qu'on trouve des formes de contestation ou alors il est reconnu par tout le monde ?
Non, au début de son règne, en 1927, on n'a plus de forte contestation de l'autorité des Français, parce qu'en fait, à travers lui, c'est l'autorité des Français que l'on pourrait contester. On est un an après la fin de la guerre du Rif. Hein. Donc la dernière grande contestation, celle d'Abdelkrim al-Khattabi, n'est plus là. Les seules contestations qu'on peut encore avoir, ce sont des oppositions armées, des résistances armées dans les montagnes, notamment dans le Moyen Atlas, qui perdurent jusqu'en 1934.
Et quelle est sa position par rapport à la présence française ? Parce que vous venez de l'évoquer, hein, la guerre du Rif, c'est-à-dire qu'il y a de véritables guerres pour s'opposer aux présences françaises et espagnoles. Lui, sultan, doit composer. Quel est son idéal ? Est-ce qu'ici, il y a l'idée de se débarrasser ou en tout cas de trouver une forme d'autonomie par rapport aux Français ?
Alors, au début de son règne, pas du tout. Pendant les 15 premières années de son règne, jusqu'au débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942, il est dans la parfaite continuité de son père. Donc, on a 30 ans des premières années de protectorat où, entre Moulay Youssef et son fils Mohamed Ben Youssef, on a une forte continuité de jonction entre le sultanat et la résidence générale. Il n'est pas du tout dans l'idée de s'émanciper. Ça, c'est quelque chose qui vient beaucoup plus tard, même si les récits hagiographiques qui sont notamment écrits au Maroc donnent parfois l'idée de quelqu'un qui, dès le départ, se serait opposé à la politique coloniale, ce qui n'est pas du tout le cas. Dans les années 30, il participe à la politique coloniale, il participe à la mise en scène de la propagande coloniale également, que ce soit au Maroc ou en France.
J'imagine que cela lui vaut des inimitiés, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette politique-là.
Alors, il y en a quelques-unes, mais étonnamment, ce qui se passe avec l'émergence du nationalisme dans les années 30 au Maroc, c'est qu'au lieu de rejeter ce sultan que les communistes français avaient parfois appelé le sultan croupion, c'est-à-dire le sultan aux mains des Français, au lieu de le rejeter, il décide plutôt d'essayer de se le rallier par une politique d'égard envers le sultan. Donc, c'est pour ça qu'on a, à partir de 1933, la création d'une fête du trône qui honore l'intronisation. C'est une fête totalement inédite, qui honore l'intronisation 6 ans plus tôt de ce jeune sultan, dont on n'a pas dit qu'il a 18 ans en 1927, donc il est très jeune. Donc au lieu de le rejeter, il décide plutôt de l'intégrer à la nation marocaine en constitution, en tant que symbole justement de cette nation.
Alors il est très jeune, effectivement, 18 ans, et vous avez raison de le rappeler, Benjamin Badier. A-t-il du pouvoir ?
Alors, il a du pouvoir dans le cadre de ce que le protectorat lui permet. C'est-à-dire qu'il est indispensable, comme tout sultan est indispensable dans le cadre du protectorat. Un de ses actes de pouvoir les plus importants, c'est qu'il doit sceller tous les daïrs, c'est-à-dire tous les décrets qui font passer la législation coloniale. Toute la législation coloniale doit passer, puisqu'on est dans un protectorat, pas dans une administration directe, doit passer par l'approbation des autorités locales, donc du sultan. Donc il doit sceller, il doit apposer son sceau sur l'ensemble de la législation coloniale. Donc il a du pouvoir au sens où il pourrait ne pas apposer son sceau. Mais dans les années 30, il ne le fait pas. Et puis, il a du pouvoir dans la mesure où il s'intègre dans un système de pouvoir traditionnel qui lui donne une prestance symbolique, une prestance religieuse. Il est également commandeur des croyants, donc c'est un pouvoir qui est à la fois politique et religieux. Et il s'inscrit dans un réseau de pouvoir. Il a tout autour de lui des familles qui sont liées à la monarchie, qui sont liées au trône et au palais, et qui occupe un certain nombre de fonctions, soit des fonctions centrales au Marzen, comme le grand vizir et les ministres, ou des fonctions plus locales, comme les pachas notamment, qui sont très liées à lui par un système de don contre don, de courtisanerie très codifiée, de mariage parfois également.
Il y a ce mot que vous prononcez, celui de Marzen. On aimerait bien savoir ce que c'est, au sens où, moi, j'entends vu que c'est autour du souverain, une sorte d'administration, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus large que cela.
C'est un terme très compliqué et très polysémique qui date du Moyen-Âge. C'est la même étymologie que le mot en français magasin, puisque le marzen, c'est celui qui reçoit également en nature dans des entrepôts les impôts. Le marzen peut avoir plusieurs sens. Ça peut être, aujourd'hui, c'est un peu le pouvoir qu'on pourrait dire un peu obscur ou l'état profond. C'est le sens qu'on lui donne souvent, par exemple, avec les services de renseignement au Maroc. À l'époque coloniale, ça peut désigner soit l'ensemble de l'administration marocaine, soit, et c'est le sens que je privilégie, c'est en tout cas celui qu'on trouve le plus dans les sources, notamment coloniales, c'est le sens de gouvernement central. Donc, le marzen, ça peut être soit l'administration centrale dans son ensemble, soit le gouvernement composé par le grand vizir et puis un petit nombre de ministres.
Et ce gouvernement central porte-t-il un regard sur la diversité au Maroc ? Parce que il y a ça, se dire on se trouve là dans la capitale, donc c'est à Marrakech, hein, j'imagine.
Non, ici c'est Rabat.
Ah, c'est à Rabat.
C'est à Rabat.
Il se trouve à Rabat parce que Marrakech.
Marrakech, c'est une ancienne capitale du Maroc. Ça a été brièvement capitale en 1912 lorsque Moulay Youssef y est pour combattre Hiba, dont vous avez parlé. Non, la capitale c'est Rabat. Au moment de la signature du traité de Fès, et c'est pour ça que le traité est signé dans cette ville, c'est Fès, mais Lyautey choisit de déplacer et le sultan et la capitale en même temps à Rabat, avec une conséquence importante puisque la capitale du Maroc est encore aujourd'hui Rabat.
Et donc, depuis la capitale, quel regard est porté sur cette grande diversité marocaine ? Parce que, on le rappelle, hein, au sud, il y a eu Hiba que vous avez évoqué, donc un mouvement de contestation très fort qui est monté jusqu'à Marrakech. Et puis, au nord du Maroc, il y a la guerre du Rif, mais ça aussi, ça s'arrête dans les années 1920. Mais enfin, la diversité du pays est toujours là.
Oui, il y a une diversité parce qu'il ne faut pas penser le Maroc comme on peut le faire trop facilement aujourd'hui comme un État-nation. À l'époque, c'est un empire, tout simplement. Donc, c'est un très grand territoire dont les frontières sont parfois encore un peu floues, avec un système de population très divers et des systèmes de gouvernement très divers. C'est pour ça qu'on a des pachas, qu'on a des caïds qui ont des formes d'autonomie. Et dans la diversité de la population du Maroc, vous avez à la fois des populations arabes, donc qui sont au centre ici, puisque la dynastie alaouite est non seulement arabe, mais chérifienne, elle descend du prophète. On a également des populations berbères qui sont très présentes, notamment dans les régions rurales et de montagne. Et puis, on a également une importante minorité juive qui fait qu'il y a une diversité à la fois en termes d'ethnie et en termes de religion.
Et il y a, par rapport aux berbères, notamment une volonté, parce que quand on a un pouvoir arabe qui ici peut être regardé avec méfiance, surtout quand on s'allie aux Français au moment du protectorat, il y a peut-être des mains à tendre.
Alors, il pourrait y avoir des mains à tendre. Un des premiers événements importants du règne de Mohamed V, c'est ce qu'on appelle le Dahir berbère, qui a été signé en 1930. Ce Dahir berbère, c'est une politique coloniale qui s'inscrit dans ce qu'on appelle parfois la politique berbère de la France, qui tendrait à favoriser les populations berbères sur les populations arabes dans le cadre de ce qu'on appelle aussi parfois le diviser pour mieux régner colonial. Cette politique berbère, ce Dahir berbère de mai 1930, instaure une nouvelle forme de juridiction dans les territoires des tribus qui sont considérées comme berbères et ôte au sultan ou officialise plutôt le fait que le système juridique des berbères dans ces tribus n'est pas lié à la loi islamique, à la charia, donc à l'autorité religieuse du sultan, mais à un certain nombre de coutumes. Et ça, cette législation que le sultan a scellée avec quelques réticences, met un peu le feu aux poudres et est souvent considérée comme le point de départ du nationalisme marocain. Donc il a été obligé de signer cette législation, qui est très critiquée par les premiers nationalistes dans la mesure où elle remettrait en cause l'appartenance à l'islam des populations berbères et en même temps que l'appartenance à l'islam enfreindrait et ôterait encore plus de pouvoir à l'autorité du sultan.
Oui, on l'entend bien, hein. Ce n'est pas un pouvoir évident. On est ici dans quelque chose qui se construit sans cesse entre ces différentes entités et dont les autorités françaises. Vous nous avez fait voyager, hein, Benjamin Badier, entre Marrakech, Rabat, Fès et moi je vous emmène à Casablanca.
Halit là.
Halit là.
Enchanté de vous revoir, commandant Strasser.
Merci, merci.
Puis-je vous présenter monsieur Renault, commissaire de police de Casablanca, commandant Strasser.
Casablanca vous souhaite la bienvenue, commandant.
Vous remercie de votre bon accueil.
Permettez-moi de vous présenter mon adjoint, Cassel.
Capitaine Antonelli, les services italiens sont à vos ordres, mon
merci.
Commandant. Je suis vraiment ravi de vous voir.
C'est un grand honneur.
Capitaine, je vous en prie. Je vous répète que vous l'avez absolument.
Ça suffise, c'est ce que j'ai à faire.
Vous trouvez le climat de Casablanca un peu chaud, commandant?
Oh, un Allemand peut supporter tous les climats, depuis la Russie jusqu'au Sahara. Mais est-ce de la température dont vous parlez?
Que voulez-vous dire par là?
À propos, où en est-on du meurtre de nos deux agents?
Devant l'extrême gravité de l'affaire, mes hommes ont interpellé une centaine de suspects.
Nous connaissons l'identité du meurtrier.
Ah, il est arrêté?
Oh, mais rien de presse. Il sera chez Rick ce soir. D'ailleurs, tout le monde sera chez Rick ce soir.
J'ai déjà entendu parler de cette boîte et de son propriétaire.
Voici le cours de l'histoire. Casablanca, le film en 1942 de Michael Curtis avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, évidemment. Benjamin Badi, 1942, la Seconde Guerre mondiale entre pleinement dans cette histoire et dans la vie de celui qui est le sultan du Maroc à ce moment-là. On l'entend, hein, et le film est sensationnel pour cela. Donc on entend des Allemands, des Italiens, il y a des Français aussi, des Marocains, mais pas seulement. Que se passe-t-il pendant la Seconde Guerre mondiale au Maroc ?
Pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1940 à 1942, le Maroc est sous domination de Vichy. Ce n'est pas un territoire occupé, contrairement à ce que l'extrait pourrait laisser penser. Il y a une petite présence allemande, une petite présence italienne également, mais seulement sous forme de commissions d'armistice qui viennent vérifier que l'armée française ne se régénère pas au Maroc, il n'y a pas des troupes qui sont en cours de constitution dans le pays, que l'armistice est bien respecté. Mais il y a un accord entre les Français et l'Allemagne nazie pour que le Maroc, tout comme les possessions d'Afrique du Nord, restent entre les mains des Français. Donc on a une forte autonomie du Maroc à ce moment-là vis-à-vis des Allemands, mais on n'a pas une autonomie du Maroc vis-à-vis de Vichy. On a un renforcement de l'administration coloniale directe à ce moment-là, que l'on voit très bien dans la transposition au Maroc d'un certain nombre de législations de la période de Vichy liées à la Révolution nationale, mais surtout liées au statut des Juifs. On a une application pendant 2 ans du statut des Juifs, une transposition à destination des Juifs français au Maroc, mais également des Juifs marocains. Donc des deux statuts des Juifs de 40 et 41 qui sont là encore, comme pour le Deir Berber de 1930, scellés par le sultan. Donc le sultan Mohamed Ben Youssef a approuvé par son sceau les deux législations anti-juives, y compris celles qui s'en prenaient à ces populations, à ces sujets qui étaient juifs. Donc on a pendant 2 ans une mise sous tutelle du protectorat et de la monarchie par Vichy, qui se termine en 1942, en novembre 1942, par le débarquement allié anglo-américain sur les côtes marocaines et sur les côtes algériennes.
Pendant ces 2 années, durant lesquelles Vichy, enfin en tout cas le régime du maréchal Pétain, domine le Maroc, l'administration française au Maroc, Mohamed V, vous nous l'avez dit, enfin le futur Mohamed V, est obligé, sans doute, on peut l'imaginer comme ça, de mettre en place le statut des Juifs, mais l'applique-t-il ? Parce que c'est pas la même chose de dire, ben voilà, je mets mon sceau, et puis après, je fais tout pour que ce soit appliqué.
Alors, dans tous les cas, c'est pas lui qui l'applique, hein. Lui, il n'exécute pas, ce sont les Français qui exécutent. Alors, c'est une grande question, c'est un grand débat historiographique, et c'est un point très sensible de la mémoire marocaine actuellement, c'est l'attitude du sultan vis-à-vis de ces daïrs anti-juifs. Ce que l'on sait, c'est qu'il les a scellés quasi immédiatement après leur transposition au Maroc. Il n'y a pas de temps, par exemple, entre le premier statut des Juifs en France et le premier statut des Juifs au Maroc. Il y a moins d'un mois qui se passe. La question, c'est plutôt, a-t-il eu des réticences ? Et moi, je pense qu'il a eu des réticences à approuver ces daïrs, il les a quand même approuvés. Il a eu des réticences, mais qui ne tiennent pas à ce que mettent en avant ses défenseurs aujourd'hui, et la mémoire marocaine, notamment dans le cadre du rapprochement entre le Maroc et Israël assez récemment. Ça ne tient pas à une question de droit de l'homme ou de protection humanitaire des Juifs du Maroc, sachant qu'en plus, il n'y a pas eu de projet de déportation, par exemple. Ça tient plutôt à une volonté de protéger encore plus son pouvoir, puisque dans les prérogatives du sultanat traditionnel, il y a l'idée que le sultan, le commandant des croyants, doit protéger ce qu'on appelle les gens du livre et notamment les juifs. Donc ces sujets juifs sont des sujets protégés. Et en fait, avec les daïrs anti-juifs, ces sujets juifs sortent d'une certaine façon de sa protection. Alors on peut voir aussi que le palais, le marzen en tout cas, a réussi sans doute à négocier en échange du scellement de ces daïrs, une autre mesure qui est une mesure spécifique au Maroc, qui n'est pas une mesure qui est présente en France, c'est la nécessité pour les juifs marocains qui seraient sortis des sortes de ghettos, c'est les quartiers juifs qu'on appelle les melha au Maroc, qui seraient sortis dans les années précédentes de ces quartiers juifs, d'y retourner, donc l'obligation d'y retourner, dans le sens où s'ils en sortent, ils se rapprocheraient des Français et donc ils sortiraient de la protection du sultan. Donc on retombe sur cette idée. Est-ce que ça a été appliqué ? On le sait très peu parce qu'il y a très peu peu de documents sur cette période qui ont été conservés. En revanche, on sait que dans une ville comme Fès, des juifs qui étaient sortis du ghetto ont été obligés d'y retourner.
Voilà, mais pour les arrestations, ça, non.
Non, pas d'arrestation. Voilà. Les mesures anti-juives dont on parle, ce sont des mesures, des interdictions d'exercer certaines professions, par exemple, et la nécessité de se faire recenser. Mais on n'est pas dans le port de l'étoile jaune, comme le mythe peut le dire parfois. Il n'y a pas d'obligation de porter l'étoile jaune. Il n'y a aucun projet de déportation au Maroc.
Et ça, c'est valable jusqu'en 1942, jusqu'au débarquement des Alliés.
Alors, non, c'est une législation qui, justement, n'est défaite qu'en 1943, assez tardivement. En fait, c'est pas du tout la priorité des autorités américaines, c'est pas la priorité non plus de la France libre. Et c'est pas une priorité parce qu'il y a une très forte inquiétude de la part des autorités marocaines à ce moment-là. Et on le voit, par exemple, dans les discussions entre Mohamed V et Roosevelt lorsqu'il le rencontre en janvier 43 à Casablanca, lors de la conférence de Casablanca. On a une inquiétude des autorités marocaines que les juifs marocains n'en profitent pour prendre le dessus sur les musulmans. Et on a des documents qui nous disent très clairement que c'est une crainte assez partagée à l'époque parmi les élites marocaines.
Ah oui, alors ça, c'est toujours impressionnant à imaginer que l'arrivée des alliés de la France libre ne fait pas disparaître ce statut des juifs
au Maroc. Non, alors il n'a peut-être pas de conséquences sur le terrain, mais officiellement, légalement, ces statuts des juifs sont maintenus pendant quelques mois après le débarquement.
Au moment du débarquement, d'ailleurs, et vous venez de citer cette conférence de Casablanca en 1943, la conférence d'Anfa aussi,
oui,
on l'appelle comme ça. Comment est traité le sultan? Il est traité parce que les alliés, ce sont les États-Unis qui viennent aussi parler. À qui parle-t-il? À l'autorité française ou à l'autorité marocaine?
Oui, alors Anfa, c'est un quartier à Casablanca. C'est effectivement une conférence qui réunit les Britanniques, la France libre et les Américains, avec Roosevelt et Churchill notamment. Le sultan n'est pas invité à la conférence. Il y est présent. Il est invité par Roosevelt à un dîner privé en marge de la conférence par pure politesse. Et le sultan place dans les Américains à ce moment-là de grands espoirs parce qu'il espère, et là c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il commence à changer, à sortir de la tutelle française, il espère d'une certaine façon que les Américains vont lui permettre de sortir de cette tutelle, peut-être en passant par une phase de protectorat américain sur le Maroc. Donc il place de grands espoirs en Roosevelt. La légende dit que Roosevelt lui aurait promis l'indépendance lors de ce dîner. Il est très probable qu'il n'y ait eu aucune promesse. Peut-être ont-ils évoqué l'indépendance, mais dans tous les cas, ça ne représentait pas la position officielle des États-Unis. Et il est assez facile de penser qu'à ce moment-là, le sultan et son entourage ont un peu trop espéré des Américains qui, eux, et ils le répètent régulièrement au cours de l'année 43, cherche à maintenir le Maroc dans le giron de la France libre pour ne pas l'affaiblir.
Avec l'idée d'indépendance qui n'est pas portée uniquement par l'entourage du sultan, parce qu'au Maroc, au même moment, il y a plein d'autres mouvements. Ceux qu'on a pu évoquer des années 1910 ou des années 1920 sont un tantinet éteint, mais il y a d'autres mouvements qui réclament l'indépendance.
Oui, alors le sultan, au sortir de la guerre, n'est pas explicitement pour l'indépendance. Il y va de façon très très prudente, justement, parce qu'il est celui qui a le plus à perdre, à savoir son trône. Mais à partir de 1943, en décembre 43, on a la création du parti de l'Istiklal, donc littéralement le parti de l'indépendance, qui se fonde sur les restes des nationalismes, des partis nationalistes des années 30, qui eux ne réclamaient pas l'indépendance mais l'autonomie. Donc on a un certain nombre de grandes figures qui se réunissent dans ce parti, qui parfois sont en exil, comme Alal El-Fassi, et qui proposent au sultan en janvier 1944, ainsi qu'aux autorités françaises, un document très important qui est le manifeste de l'indépendance, et qui est pour la première fois la revendication très forte d'une indépendance.
Voilà, ça y est, l'idée d'indépendance est portée par d'autres mouvements, avec des mouvements qui n'envisagent peut-être pas de conserver un sultan.
Alors si, parce que on est dans la continuité des années 30, le sultan reste très important pour eux. La personnalité du sultan reste très importante. On a une forte propagande autour de sa personne. C'est pour cela qu'en 44, ils lui remettent aussi le manifeste de l'indépendance, parce qu'il l'inclut dans cette indépendance, et il est lui-même très présent par son nom dans ce document. Et cette alliance se renforce dans les années qui suivent, d'autant plus parce que le sultan lui-même finit par s'engager en faveur de l'indépendance, de façon toujours prudente, parfois à mots couverts, mais dans les années qui suivent, les liens, les rencontres, parfois secrètes, entre les nationalistes et le sultan se renforcent.
Et en 1945, évidemment, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, et le sultan voyage.
Amitié, fidélité, ce sont les deux mots de ce voyage impérial. 6 ans, lourds d'événements, ont passé depuis la dernière visite à la France de Sa Majesté le Sultan, sans rien changer à l'union franco-marocaine. Mais aujourd'hui, la visite de Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef s'effectue sous le signe de la victoire. De Casablanca, au milieu du déploiement traditionnel qui entoure les visites des souverains, le croiseur Gloire va transporter à Cherbourg sa majesté chérifienne, accompagnée de son fils aîné, Moulay Hassan. Et bientôt, c'est la gare du Bois de Boulogne, où aucun train n'est entré depuis la visite historique des souverains britanniques. Le général de Gaulle vient accueillir l'hôte de Paris, rencontre attendue qui met face à face deux hommes, deux chefs, qui ont tous deux, aux heures les plus tragiques, fait confiance à la France. Le premier geste du sultan est justement le geste de cette foi française. À l'heure où les problèmes de l'avenir se posent à la conscience du monde, Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef affirme de la façon la plus noble et la plus éclatante sa foi dans la pérennité de la France.
En juin 1945, dans le journal des actualités françaises, le voyage en France de Sidi Mohamed Ben Youssef, le sultan du Maroc, qui a alors 36 ans. Il est encore jeune, hein, Mohamed Ben Youssef, c'est le sultan. Et quand on entend ce type d'archives, on se dit, bon, bah, ça y est, la guerre est terminée. Et pour les autorités françaises, bah, on repart comme avant.
Oui, on a l'impression que tout rentre dans l'ordre et c'était l'objectif de Gaulle en invitant le sultan pour le 18 juin, en fait, la première célébration du 18 juin. Il invite le sultan et lui remet l'ordre de la libération. Il le fait compagnon de la libération. C'est le premier souverain étranger d'ailleurs à être fait compagnon de la libération et c'est une récompense assez étonnante étant donné tout ce qu'on vient de dire puisque pendant deux ans, il a quand même été au service de Vichy. Donc c'est une récompense qui, en fait, à travers lui, récompense l'ensemble des soldats marocains qui ont participé à la libération de l'Europe. Mais moi, je pense qu'il faut aussi y voir, et c'est tout le ton qu'on a dans ce document que vous avez diffusé, c'est l'idée que c'est plutôt une fidélité à venir qu'il faut maintenir. Donc c'est plutôt, on achète un peu la fidélité du sultan en essayant de ressouder des liens qui, justement, se sont distendus pendant les années de la guerre.
Et est-ce que cette fidélité est confortée dans les années qui suivent ?
Non, pas du tout, parce qu'en 1945, Mohamed Ben Youssef vient à Paris un peu dans l'idée de négocier, donc il n'obtient pas grand-chose. Et dans les années qui suivent, on assiste à un éloignement progressif du sultan vis-à-vis des Français, qui débouche sur un coup d'éclat en 1947 avec le discours qu'il prononce à Tanger, donc la ville internationale, donc dans l'idée de s'adresser ici au Maroc, aux Français, mais au monde entier. Et dans ce discours, alors il ne demande pas explicitement l'indépendance, parce qu'il ne peut pas vraiment le faire sans risquer pour son trône, mais il le laisse entendre de deux façons. Tout d'abord, il mentionne la Ligue des États arabes et il se place dans une perspective à la fois panarabiste et de réformisme musulman qui vient du Moyen-Orient, donc qui s'inspire de pays qui sont déjà indépendants. Il met en avant, par exemple, le roi d'Égypte qui est à la tête d'un pays indépendant en tant que roi. Et puis dans ce discours, dont il faut rappeler qu'il est accompagné aussi de discours de son fils Moulay Hassan, de sa fille Lala Aïcha, donc c'est un ensemble de discours, un corpus qui permet de comprendre quelle est la position de la monarchie à ce moment-là. Dans ce discours, surtout, c'est plutôt parce que ce qu'il ne dit pas qu'on comprend ce qu'il veut dire. Il devait prononcer un paragraphe, le dernier paragraphe de son discours, qui a été âprement discuté avec la résidence générale, et il oublie volontairement de le prononcer à la fin de son discours. Or, ce paragraphe, c'est celui qui remerciait la France et qui mentionnait la France. Donc on obtient un discours à l'adresse du Monde, radiodiffusé, qui ne mentionne pas la France. Donc on ne parle pas d'indépendance, mais c'est assez clair.
Voilà, j'imagine donc les autorités françaises pas contentes.
Elles sont furieuses.
Mais à l'inverse, c'est formidable aussi pour les tenants du nationalisme et pourquoi pas de l'indépendance. Mais est-ce que tout le monde est si content que ça au Maroc ?
Non, parce que en plus de la revendication d'indépendance qui croît chez Mohamed V, il y a également des ambitions monarchiques et qui vont ensemble. Dans l'idée de lutter pour l'indépendance du Maroc, il y a également l'idée de lutter pour une nouvelle forme de monarchie, une monarchie qui s'affirme, notamment face aux élites traditionnelles, aux élites qu'on a appelées celles qui lient et délient, celles qui en fait doivent prêter allégeance au pouvoir. Et parce que il porte cette vision renouvelée et beaucoup plus verticale de la monarchie, Mohamed V se fait un un certain nombre d'ennemis également au sein même du Maroc, et notamment chez ces élites traditionnelles, dont la figure de proue, la figure que l'on retient en général, est celle du pacha de Marrakech, qui est pacha pendant toute la durée du protectorat, qui s'appelle Tami El Glaoui, dit aussi le Glaoui, qui est un personnage très très puissant dans le sud du Maroc, qui a énormément d'alliés au Maroc et en France, et qui a la possibilité de mobiliser derrière lui d'importants réseaux politiques, notamment des caïds.
Et voilà, donc il déplaît aux Français, il déplaît aux conservateurs. Et puis, le discours de Tanger, c'est en avril, et très peu de temps plus tard, au mois de juin, arrive, mais qui donc, le général Juin.
C'est dans ce climat d'un réveil du nationalisme dans les pays musulmans que le général Juin a pris à Rabat possession de ses fonctions de résident général en rendant, dès son arrivée, visite au sultan du Maroc. Avant d'aller en grand apparat au milieu d'une foule dense et frappée de respect, s'incliner devant le mausolée où dort dans sa terre marocaine son prédécesseur, Lyautey l'Africain.
La figure de Lyautey, alors Lyautey lui est maréchal mais il est mort, le général Juin est encore général, il n'est pas déjà maréchal. Nous sommes en 1947, la venue d'un nouveau résident général qui représente la France au Maroc, c'est un changement aussi parce que le journal des actualités françaises, donc c'est un organe de propagande qui nous parle, évoque quand même le mouvement des nationalismes en arabe, dans le monde arabe.
Oui, alors l'idée avec la nomination du général Juin, c'est de reprendre les choses en main après la tentative pendant 2 ans de mener une politique plus libérale au Maroc, dont le gouvernement français considère qu'en fait elle a échoué avec le discours de Tanger. Le général Juin, il a un passif, c'est celui qui en 1943 a déjà déposé le bey de Tunis, Moncef Bey. Donc c'est déjà quelqu'un qui a une expérience dans la déposition de monarques maghrébins. Et donc, c'est la menace qui pèse, en fait, sur Mohamed V à partir de ce moment-là. C'est l'idée que s'il n'obéit pas suffisamment, il pourrait être déposé à son tour. C'est assez explicite. Et le général Juin l'oblige à mettre fin à ce qu'on appelle la grève du sceau, c'est-à-dire qu'à partir de 1945, sur certaines réformes françaises qui, sous découvert d'amener le Maroc vers l'autonomie, en fait, accroissent la mainmise des Français, le sultan s'est opposé à ces réformes en retenant son sceau, en faisant la grève du sceau. Et donc le général Juin, par tout un tas de mesures, de pressions autour du palais, oblige le sultan à signer ses daïrs, mais pendant 4 ans, jusqu'en 1951, donc c'est le temps du mandat du général Juin au Maroc, on a une opposition constante entre les deux sur tout un tas de mesures qui portent à la fois sur des réformes coloniales françaises, mais également sur des réformes qui visent à accroître le pouvoir des autorités locales. Donc justement, ces élites conservatrices marocaines qui s'opposent de plus en plus au sultan.
Benjamin Badi, mais je le reconnais plus, cet homme que vous nous avez présenté, ce jeune homme, hein, quand il arrive, il devient sultan, il a 18 ans en 1927, et puis là, il approche de la quarantaine, enfin il a 40 ans d'ailleurs, parce que nous sommes en 1947, et il n'est plus du tout le même au sens où il commence à mener une politique qui n'est pas celle de l'indépendance qui peut être portée par d'autres mouvements, qui est vraiment une voie, la voie du sultan. Et on voit bien qu'il y a eu toute cette évolution, c'est un long processus, mais il était tout jeune homme, il s'en est passé des choses depuis. Il a complètement changé sa vision de l'avenir du Maroc.
Effectivement, il s'est converti à l'indépendance, il a été influencé par cela, par le nationalisme arabe, également par le réformisme musulman, qui est un point très important de sa pensée politique. Cependant, moi, j'ai tendance à ne pas le qualifier de nationaliste, parce que ce qu'il place au centre, c'est pas la nation, c'est la monarchie, c'est lui-même, en fait, c'est son trône. Donc il est monarchiste, tout simplement, et son monarchisme intègre des éléments de nationalisme.
Est-ce que nous avons un sultan qui voyage, qui veut s'attirer les faveurs de la population, qui va parcourir l'ensemble de son territoire, les villes, qui se montre ?
Alors, il se montre de plus en plus. Il voyage, mais il voyage pas dans tout son territoire, parce que ses déplacements sont souvent contrôlés par les Français. Il y a beaucoup de propagande pendant la guerre, par exemple, où il est déplacé dans les parties pré-sahariennes pour montrer sa gloire. Il retourne voir le tombeau de ses ancêtres. En revanche, il mène lui-même une très grande politique de diffusion de son image. Et là, c'est une rupture avec ce qu'était la monarchie auparavant. Une monarchie qui était donc assez modeste, qui se montrait en certaines occasions très symbolique, très codifiée, avec toute une mise en scène, un cheval, un parasol, des lances, des esclaves qui l'entourent. Désormais, on a la diffusion d'une image modernisée jusque dans ses vêtements. C'est-à-dire que sa photo commence à circuler. Hein. Aujourd'hui, si vous allez au Maroc, dans toutes les boutiques, vous trouvez une photo du roi actuel. Eh bien ça, c'est quelque chose qui n'existe pas avant Mohamed V. C'est quelque chose qui commence à apparaître en lien avec le nationalisme dans les années 40 et surtout les années 50. Et puis, de la même façon, il diffuse ses discours. Hein. C'est un homme de discours qui prononce de plus en plus de discours à l'occasion de la fête du trône, donc, dont on a dit qu'elle avait été créée en 1933-1934. À partir de 1944, il commence à prononcer un grand discours qui donne en fait un peu le pouls politique de l'année, donc le 18 novembre à chaque fois. Et ces discours sont toujours diffusés dans la population marocaine, notamment à destination des élites.
Voilà, parce que ça, ce sont ces discours en fait d'anniversaire, hein, tout simplement, du règne. Et on l'a bien dit, c'était en novembre 1927.
Oui.
Donc tous les mois de novembre, bah, c'est la fête.
De retour à Rabat, le général Guillaume s'est rendu à l'occasion de la fête du trône auprès de Sa Majesté le Sultan, lui apportant les vœux de la France pour le 24e anniversaire de son règne. Entouré des membres du Makhzen, Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef, après avoir chaleureusement remercié le général, a tenu à mettre l'accent dans son discours du trône sur l'identité des vues françaises et marocaines. Il a demandé que la question marocaine soit discutée dans le cadre de l'amitié et du respect des intérêts supérieurs des deux pays.
Novembre 1951, donc le 24e anniversaire du règne du sultan, avec ici et toujours ces éléments de propagande, hein, ces deux pays, avec l'amitié, mais l'identité aussi. Tout cela se construit peu à peu, on voit bien que ça bouge parce que le contexte n'est plus le même qu'auparavant, et le sultan évolue dans cet univers-là. C'est-à-dire qu'il doit essayer de trouver une voie, c'est pas un homme du coup de force.
Non, c'est un homme qui est très très prudent parce que, comme je l'ai dit, il est celui qui a le plus à perdre. Donc il est beaucoup moins radical dans ses moyens, dans ses propos que les nationalistes par exemple. Il doit louvoyer entre les nationalistes, entre les Français et entre les élites conservatrices. Et il est celui qui a le plus à perdre puisque, par exemple, là, on cite, dans le document que vous avez diffusé, on cite le général Guillaume qui est en fait celui qui a remplacé le général Juin. Et en fait, le général Juin a dû partir du Maroc parce qu'en 1951, il a tenté de déposer une première fois le sultan qui a été sauvé in extremis par le gouvernement parisien. Peut-être aidé par les Américains.
Oui, parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure, Benjamin Badie, mais en 1943, lors de la conférence de Casablanca, depuis les États-Unis, on a soufflé dans l'oreille du sultan que c'était lui aussi l'homme important du Maroc. Ça, il ne l'a pas oublié, il le sait. Il sait qu'il peut bénéficier du soutien, notamment des États-Unis, dans un contexte, hein, nous sommes au début des années 1950, de décolonisation.
Effectivement, alors c'est un soutien américain qui reste très timide. Quand même, les Américains veillent quand même à ne jamais empiéter sur les intérêts français.
Oui, voilà. Bon, mais il n'y a pas de communistes au Maroc à ce moment-là. Si,
il y a un parti communiste qui est dirigé par un juif d'Algérie, mais qui est très peu puissant. Voilà. Oui, voilà, les principaux partis, c'est les partis nationalistes, le parti de l'Istiklal et le parti démocratique de l'indépendance.
Alors, vous nous dites que le général, il est encore général, Juin en 1951, a tenté de déposer le sultan. Il n'a pas réussi. Mais à un moment, ça va agacer les autorités françaises, le fait que le sultan refuse de poser son sceau.
Effectivement, et en fait, ce projet de déposition du sultan, il reprend à la fin de l'année 1952 et en 1953. Fin 52, vous avez un événement très important, vous avez des émeutes à Casablanca qui sont meurtrières et qui servent de prétexte aux Français pour interdire les partis nationalistes. Donc à partir de ce moment-là, le sultan du Maroc est isolé. Et c'est aussi à ce moment-là que reprend le complot français qui, en fait, cette fois-ci apparaît de façon plus évidente comme allié avec des élites marocaines. Et ce complot n'est pas mené de façon évidente par la résidence générale, mais par le pacha de Marrakech qu'on a évoqué tout à l'heure, qui lance une pétition en 1953, une pétition qui vise à délier le pouvoir du sultan, c'est-à-dire à retirer l'allégeance qu'un certain nombre de caïds, notamment, ont donnée au sultan. Donc, ils retirent leur allégeance, c'est une pétition qui est diffusée dans l'ensemble du Maroc, qui recueille beaucoup de signatures et qui, en fait, conduit à l'effondrement de la légitimité du sultan du point de vue du système traditionnel, pas du point de vue que veulent mettre en place les nationalistes et le sultan lui-même. Donc on a une pression qui s'accroît sur le sultan lui-même, qui s'accroît également sur le gouvernement français qui suit les choses de très loin sans forcément comprendre ce qui se passe. Et en août 1953, les pachas et les caïds qui souhaitent déposer le sultan se réunissent à Marrakech et finissent par élire en fait un autre imam, en la personne de son cousin Mohamed Ben Arafa, donc un autre commandeur des croyants. Et cette décision accroît la tension au Maroc. Maroc et finit par contraindre le gouvernement français à accepter l'idée d'une déposition. Et le 20 août 1953, le général Juin, encore lui, pressé par le Glaoui et autorisé par le gouvernement français, finit par déposer effectivement le sultan Mohamed Ben Youssef.
Le Glaoui, c'est le pacha de Marrakech, avec cette idée de lier et délier. Bah, d'ailleurs, c'est le titre de votre thèse, hein, Benjamin Badier. Lier et délier le trône. Mohamed V, dernier sultan et premier roi du Maroc. Dans cette idée de lier ou délier, ça signifie que les autorités françaises, général Juin par exemple, au moment de se dire bah, on va le déposer, il n'est pas tellement en contradiction avec les pratiques au Maroc.
Non, effectivement, ils instrumentalisent les pratiques marocaines, ils instrumentalisent les intérêts marocains, mais ce qu'il faut prendre en compte, ce sont justement ces intérêts marocains. Le Glaoui, mais d'autres aussi acteurs marocains traditionnels, ne sont pas seulement manipulés ici. Ils ont leurs vrais intérêts. Ils agissent de leur plein gré également. Donc il ne faut pas les réduire au rôle de marionnettes. Pour eux, ils ont un vrai intérêt à déposer ce sultan qui est dangereux pour eux.
Et là, nous sommes en 1953. En 1953, dans l'émission Paris vous parle, il est déjà question de cette histoire-là, l'histoire de ce sultan qui risque de ne plus être sultan.
Il est un fait qu'à partir de cette conférence d'Anfa, Sidi Mohamed Ben Youssef s'est persuadé qu'il devait écarter les Français de la responsabilité de la gestion des affaires communes. Et c'est à ce moment-là qu'il commença à faire la grève du sceau, c'est-à-dire à refuser de signer les réformes qui étaient soumises à son approbation. Cette attitude du sultan lui attira naturellement la sympathie des nationalistes extrémistes, qui n'attendaient que cette initiative de sa part pour pousser plus loin leur action. Enfin, il faut bien le dire, et contrairement à ce qu'on aurait pu croire, le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef s'aliéna aussi, ce que j'ai appelé il y a quelques jours, les vieux turbans. Parce qu'il avait pris diverses mesures d'émancipation qui ne plaisaient pas du tout aux vieux éléments conservateurs. En bref, tous ces éléments conjugués, les pour et les contre, ont abouti à la déposition du sultan Sidi Mohamed Ben Youssef. Déposition, soulignons-le encore une fois, qui n'a pas été décidée par la France, ni par ses représentants sur place, mais par la majorité de la population marocaine agissante.
C'est le journaliste Joseph Pasteur qui s'exprimait ici, on est en 1954, il parle de ce qui est passé l'année précédente. Alors, Benjamin Badier, vous dodelinez au moment où c'est pas les autorités françaises. Si, un peu
si,
quand même.
C'est les deux, c'est à la fois voilà. Les autorités traditionnelles marocaines et les Français. Ils ont des intérêts communs, en fait. Il n'y en a pas un qui manipule l'autre, ils ont des intérêts communs qu'il faut prendre en compte.
Alors, pour Sidi Mohamed Ben Youssef, qui n'est plus sultan, alors, à ce moment-là, il est déposé, qu'est-ce qui se passe?
Il est déposé, mais il n'abdique pas, ah, et oui. Il ne renonce jamais à son trône, officiellement. Ce qui se passe, c'est qu'il est exilé, comme de nombreux militants nationalistes avant lui, hein. C'est une étape obligée de la carrière d'un militant pour l'indépendance contre la colonisation française. Il est exilé d'abord en Corse, avec sa famille, notamment ses deux fils, ses filles, ses deux épouses et sa vingtaine de concubines. Et ensuite, il est exilé à partir de janvier 1954 à Madagascar, où il reste pendant un an et demi.
D'accord, donc nous avons un personnage exilé, mais qui conserve son titre, au sens où il dit que c'est toujours lui le sultan, avec l'idée de revenir et de faire bouger les choses.
Alors, au départ, il n'a pas vraiment l'idée de revenir. Il a l'impression d'avoir perdu le pari dans lequel il s'est engagé depuis la fin de la guerre, le pari de l'indépendance. Il a perdu son trône et il pense que, comme la majeure partie des gens qui ont été détrônés, comme le bey de Tunis qu'on évoquait tout à l'heure, il ne regagnera jamais son trône. Ce n'est que... Et d'ailleurs, il s'engage, en échange d'un certain confort pour sa vie personnelle en exil à Madagascar, à ne pas s'engager politiquement. Et son engagement en faveur de son propre retour n'intervient que progressivement, à partir de la fin de l'année 1954, lorsque la situation est en train de changer au Maroc.
Pourquoi change-t-elle? Parce que donc il a été remplacé par son cousin Sidi Mohamed Ben Arafa. J'imagine d'ailleurs les repas de famille après, ça devait être un peu tendu. Mais qu'est-ce qui se passe au Maroc en 1954?
Alors la déposition, contrairement à ce qu'espéraient les autorités françaises, ne règle absolument pas le problème et au contraire met le feu aux poutres, parce qu'on a le déclenchement d'un mouvement de résistance, Mukawama en arabe, que les Français appellent un mouvement terroriste et qui se caractérise par une lutte armée, une action directe, avec de très nombreux attentats nationalistes, des assassinats. On a par exemple un attentat au marché central le 24 décembre 1953, marché central de Casablanca, qui fait plus d'une dizaine de morts. Et on a pendant 2 ans et demi de très nombreux attentats qui, en tout, font au moins 1 millier de morts, dont une grande partie, et c'est ça qui est intéressant, sont en fait des Marocains. C'est-à-dire des Marocains alliés au protectorat, soit qui ont participé à la déposition du sultan, soit représentent l'autorité coloniale comme des policiers marocains.
Et pendant ce temps-là, le sultan, enfin Sidi Mohamed Ben Youssef, s'ennuie, il se trouve si loin à Madagascar.
Ici, les journées et les nuits sont bien longues, et nous ne pouvons sortir de cette inoccupation imposée que par un effort constant. Nous employons notre temps complètement vide à lire les journaux, écouter les émissions et méditer sur le sort de notre chère patrie, déchirée par les intrigues politiques et les crises sociales. Au Maroc, l'anarchie, l'angoisse et la désolation la plus désespérante trouvent un terrain favorable et prennent de jour en jour des proportions considérables. La vie doit y être impossible. On se doit de trouver un remède à cette situation déplorable. Nul n'est prophète en son pays. Mais une connaissance approfondie de la psychologie marocaine, une prévoyance née d'une expérience sur plusieurs années de règne, nous avait fait prévoir dès 1950 tous les malheurs qui se sont abattus sur notre pays.
Olivier Martineau, qui, dans le cours de l'histoire, lisait cette lettre de Sidi Mohamed Ben Youssef, adressait cette lettre à Marcelin Flandrin, le photographe, photographe du Maroc notamment. Nous sommes en avril 1955. Il se trouve à Madagascar. À quel moment décide-t-il de revenir ?
Alors, c'est pas lui qui décide de revenir, hein. Ce sont les autorités françaises qui finissent par le rappeler au terme d'un processus très complexe qui voit la dégradation de la situation sécuritaire au Maroc et qui à partir de l'été 1955 fait que le gouvernement français de l'époque, c'est le gouvernement Faure, reprend les choses en main. Donc il enlève le pouvoir à la résidence générale, il reprend les choses en main, il commence à consulter les nationalistes lors de ce qu'on appelle la conférence d'Aix-les-Bains en août 1955, à un moment où la violence devient de plus en plus importante. Hein, pour l'anniversaire de le deuxième anniversaire de la déposition du sultan, le 20 août 1955, vous avez plusieurs centaines de morts dans certaines villes au Maroc. Donc on a vraiment un effondrement de l'autorité française à ce moment-là, qui fait que, si vous ajoutez à ça le déclenchement d'une guérilla dans le nord du Maroc, avec l'armée de libération du Maroc à partir d'octobre 1955, les autorités françaises de Paris commencent à réfléchir en fait à l'endroit où se trouvent les meilleurs intérêts français. Dans un contexte où la guerre d'Algérie a commencé depuis un an également, ils en viennent à la conclusion que la meilleure façon pour préserver les intérêts français humains, on parle quand même de au moins 300 000 personnes françaises au Maroc à cette époque, les intérêts économiques et les intérêts géostratégiques, ne se situe plus dans le maintien à tout prix d'un protectorat qui sombre ou menace de sombrer dans la violence, mais dans la négociation d'abord d'une autonomie et très rapidement de l'indépendance qui permettra de maintenir ses intérêts. Et en fait, il regarde à ce moment-là quels sont les différents acteurs politiques, il voit que les autorités traditionnelles sont totalement mises de côté, discréditées par la situation, il voit que les nationalistes montent en puissance, gagnent en puissance, et c'est pour ça qu'il les consulte, mais ils se rendent compte qu'ils sont très radicaux et que il pourrait nuire aux intérêts français dans la région. Ils se rendent compte qu'en fait, le meilleur acteur pour préserver leurs intérêts, eh bien, c'est ce sultan qu'ils ont préservé à Madagascar et qu'ils pourraient très bien rappeler. Et là, ça rejoint tout ce que Mohamed V lui-même a fait de son côté pour militer pour sa cause par l'intermédiaire de réseaux qu'il a mobilisés au Maroc et en France auprès des autorités politiques. Et donc, on a une convergence d'intérêts à la fin de l'année 1955 entre les intérêts français au Maroc et les intérêts du trône qui convergent à ce moment-là. Et il est rappelé en France début novembre 1955, où il négocie sa restauration et l'idée d'indépendance avec Antoine Pinet, qui est ministre des Affaires étrangères à ce moment-là. Et il finit par être restauré et donc à revenir au Maroc le 16 novembre 1955 avec une promesse d'indépendance qui n'intervient que en mars suivant. Mais la rupture, c'est bien novembre 1955. À la fois la restauration et la promesse d'indépendance, le 2 mars 1956, c'est juste la signature du document qui officialise tout ça.
Oui, c'est la date qu'on retient souvent, en 1956 pour l'indépendance du Maroc. À quel moment ce personnage, Sidi Mohamed Ben Youssef, devient roi, Mohamed V ?
Alors, d'une certaine façon, il a toujours été roi parce que le terme roi Malik fait partie de la titulature officielle, en même temps que sultan ou commandeur des croyants. C'est un terme qui a commencé à être réutilisé, inspiré de l'Europe, mais également de ce qui se passe au Moyen-Orient, dans les années 30 par les nationalistes, et lui-même ne l'utilise pas avant l'indépendance pour se désigner lui-même. Mais en 1957, en août 1957, un mois après l'abolition de la monarchie bellicale en Tunisie, il décide d'officialiser ce changement et il fait une déclaration dans la presse dans laquelle il dit que son nom à partir de maintenant, son nom officiel de règne n'est plus Sidi Mohamed Ben Youssef mais Mohamed V. Donc pour la première fois on a une numérotation de monarque, avant on ne les numérotait pas. Et puis il dit également qu'à partir de maintenant on ne parle plus de l'Empire chérifien qui était le nom officiel du Maroc mais on parle du Royaume du Maroc. Donc à ce moment-là, c'est l'été aussi où il nomme son fils Moulay Hassan prince héritier officiellement, on a un basculement de la monarchie qui s'officialise en tant que royauté. Donc on met de côté, on ne parle plus du tout de sultanat.
Mais rester ancré dans la tradition devient quelque chose d'important parce que vous nous dites avant, on ne les numérotait pas, mais il est numéro 5.
Alors il est numéro 5, on les numérote au sein de la dynastie Alaouite. Effectivement, on a pris tous les autres sultans de la dynastie Alaouite qui s'appelaient Mohamed.
Le territoire du Maroc est-il constitué à ce moment-là? Parce que l'indépendance, c'est une chose, mais on sait très bien, et vous nous l'avez dit dès le début de l'émission, que les frontières sont floues.
Non, le royaume du Maroc tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec également la question sensible de la revendication sur le Sahara occidental, n'est pas du tout constitué. Le 2 mars 1956, c'est l'indépendance seulement vis-à-vis des Français. Il faut attendre le mois suivant pour que les deux zones la zone nord du protectorat espagnol soit récupérée par les Marocains. Et il y a encore la question de Tanger qui est réglée un peu plus tard. Et vous avez dans les années qui suivent des revendications croissantes, les nationalistes, notamment Alaa Al-Fassi qu'on a évoqué tout à l'heure, revendiquent lui ce qu'il appelle un grand Maroc qui englobe ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahara occidental, qui englobe la Mauritanie, qui englobe même le Sahara oriental, qui est en fait une partie actuelle de l'Algérie. Les frontières ne sont pas fixées de façon claire à l'époque. Donc on a d'importantes revendications que le pouvoir royal fait sienne à partir de 1958, avec notamment de très importantes revendications sur la Mauritanie. En revanche, on n'a pas de revendications à l'époque sur le Sahara occidental, qui est encore une colonie espagnole. Il faut attendre les années 70 pour que cette revendication émerge à l'échelle au niveau de la monarchie.
Et puis, cette revendication qui monte jusqu'aux Nations Unies, évidemment, avec ce Sahara occidental qui est toujours reconnu comme un territoire non autonome, c'est-à-dire c'est encore un territoire colonisé par le Maroc. Et on sait combien, vous l'avez dit, c'est une question sensible au Maroc et puis au Sahara occidental. Mais ça, c'est pour les gens qui vivent là-bas. Benjamin Badier, Mohamed V est un souverain, vous l'avez dit, qui est une figure si importante dans la construction même de la manière de narrer l'histoire du Maroc. Il meurt en 1961. Son fils, qu'on évoque depuis tout à l'heure, le prince héritier Hassan, donc Hassan II, ça y est, la succession est logique. On n'est plus du tout comme on était au début de l'émission.
Effectivement, alors les successions de monarques, c'est toujours le meilleur moyen de comprendre comment fonctionne une monarchie. En 1927, Mohamed V, Mohamed Ben Youssef, avait été choisi parmi plusieurs candidats possibles. En 1961, son fils lui succède immédiatement. Donc on a la mise en place d'une succession immédiate qui est entérinée dans la première constitution de 1962 par la suite, donc après la mort de Mohamed V, qui met en place une primogéniture. Donc là, on a le signe que la monarchie marocaine s'est totalement transformée dans ses logiques les plus profondes.
Avec ici cette histoire à travers un homme, Mohamed V, dernier sultan et premier roi du Maroc. C'est votre ouvrage, Benjamin Badier. C'est publié aux éditions Perrin. Mais on sent bien qu'au-delà de la biographie, c'est aussi l'histoire du Maroc que vous nous racontez. Merci vivement vous d'être venu dans le cours de l'histoire. Vous savez, toute la série qu'on a consacrée dans le cours de l'histoire au Maroc et à ses sultans depuis ses dynasties médiévales, en passant par tous les mouvements de contestation, est à retrouver, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et oui, on chante le beau printemps marocain. Le soleil magnifique des hautes montagnes berbères. Ici, tout dans la nature entonne la joie de vivre par le travail, la sérénité. L'orage n'emportera pas le sol si chèrement entretenu. Oui, on veillera à ce que la vie triomphe, l'espérance invincible.
Évocation poétique du Maroc en 1951. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Cassandre Puel à la technique Alexandre Dang. Émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Raphaël Alloum, Solène Roy, Maël Vincent Randonnier et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.